Corasso.org. Corasso, association de patients qui informe et soutient les personnes touchées par un cancer ou un cancer rare, tête et cou, plus communément appelé cancer ORL, vous propose aujourd'hui un podcast consacré au curage ganglionnaire. Pour répondre aux questions que se posent les patients, le professeur Franck Gégou est avec nous. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien ORL au CHU de Rennes. Qu'est-ce qu'un ganglion ? À quoi sert-il ?
Un ganglion est un organe que tout le monde possède et qui a un rôle dans le drainage lymphatique. C'est un organe lymphoïde, au même titre que la moelle osseuse, la rate, le foie, le thymus, etc. Mais à ceci près que c'est un organe qu'on trouve dans la totalité de l'organisme. On n'a pas un ganglion, mais évidemment on a énormément de ganglions dans le cou, au niveau des aisselles, au niveau des creux inguinaux, c'est-à-dire à la racine des cuisses, etc. Donc il y en a vraiment partout dans l'abdomen. Et c'est vrai que la région cervicale est une des régions les plus riches en ganglions de l'organisme.
Vous parlez de beaucoup de ganglions, ça représente combien ?
Dans une région cervicale, donc au niveau du cou, il y a environ, on va dire, de 60 à 150 ganglions en fonction des personnes.
Qu'est-ce qu'un ganglion sentinelle ? Quelle est sa fonction ?
Alors le ganglion sentinelle, c'est le nom que l'on donne aux ganglions qui drainent la tumeur. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un ganglion draine une région anatomique, c'est-à-dire qu'il permet le passage de la lymphe, donc qui est un liquide qui s'écoule dans des petits canaux, et ce liquide s'écoule jusqu'au ganglion, depuis par exemple la muqueuse, de l'amygdale, de la langue, et la lymphe va s'écouler jusqu'au ganglion. Donc, en fait, chaque ganglion draine une partie plus ou moins précise de cette muqueuse. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le ganglion sentinelle, c'est le ganglion qui draine une tumeur. Si vous avez une tumeur, par exemple, de la pointe de la langue, eh bien le ganglion sentinelle peut être situé sous le menton ou bien un peu plus près de l'angle de la mandibule, donc de la mâchoire. Voilà, donc le ganglion sentinelle, c'est juste le ganglion qui draine la tumeur. Ça ne présume en aucun cas du fait qu'il soit envahi par une métastase ou pas.
Est-ce que vous pouvez nous parler de cette intervention que vous pratiquez, le curage ganglionnaire ?
Alors le curage ganglionnaire est une intervention qui a pour objectif de retirer les ganglions du cou. Alors c'est une intervention qui est très très ancienne, qui a été décrite il y a vraiment plusieurs siècles déjà, et qui est une intervention qui est quasiment systématiquement associée au traitement chirurgical d'une tumeur ORL. Donc ça consiste à enlever une partie des ganglions de la région cervicale, parce que on ne peut pas, ce n'est jamais possible, d'enlever la totalité des ganglions de la région cervicale. Donc du coup, on enlève en général les ganglions qui sont les plus à risque d'être envahis par une métastase, donc les ganglions qui sont dans la région de drainage de la tumeur. Donc par exemple, si on a une tumeur de l'amygdale droite, on va retirer les ganglions du cou du côté droit. Si on a une tumeur, par exemple, uniquement une toute petite tumeur du bord de la langue du côté gauche, on peut enlever uniquement les ganglions qui sont dans la région près du menton et de la mâchoire. Voilà. Donc le curage consiste à retirer ces ganglions. Donc ça nécessite toujours une incision cervicale, donc de couper un petit peu la peau. C'est une intervention qui se fait donc de manière assez invasive. Par contre, ce qui change beaucoup, c'est la quantité de ganglions et de tissus que l'on va retirer. Il y a très longtemps, lorsque ces curages ont été décrits, ils étaient de manière systématique destinés à retirer la totalité des éléments dans la moitié d'un coup. On enlevait tous les ganglions, on enlevait même la veine jugulaire interne, on enlevait même le muscle qui est situé sur le côté du cou, qui est le muscle sternocléidomastoïdien, parce que ces ganglions sont justement situés le plus souvent entre la veine jugulaire et ce muscle. Donc, tout était retiré, c'est ce qu'on appelle le curage radical. Et puis progressivement, on s'est rendu compte que c'était évidemment assez nocif pour le patient et pas forcément bénéfique sur le plan du traitement du cancer. Donc on a vu apparaître des évidements cervicaux, des curages cervicaux fonctionnels, c'est-à-dire un peu plus conservateurs, qu'on appelle maintenant les curages radicaux modifiés, où là, on enlève un maximum de ganglions dans le cou, mais on n'enlève pas la veine jugulaire et on n'enlève pas le muscle. Puis progressivement, on a fait des curages qui sont devenus très sélectifs, où on n'enlevait pas tout la moitié du cou, mais on enlevait seulement des régions qui étaient les plus à risque. Et puis encore plus récemment, on a vu apparaître le ganglion sentinelle, qui consiste à analyser uniquement le ou les quelques ganglions qui drainent la tumeur.
Ça peut durer combien de temps, cette intervention ?
Alors, comme je viens de l'expliquer, ça peut aller par exemple pour une technique du ganglion sentinelle qui consiste à enlever juste un, deux ou trois ganglions très localisés, où là il y en a pour moins d'une heure, à une durée d'intervention qui peut faire 2h30 à 3h lorsqu'il y a la totalité des ganglions du cou à retirer d'un côté, avec notamment parfois des métastases, donc des ganglions qui sont très volumineux et qui collent énormément à la carotide par exemple. Donc là, ces interventions durent beaucoup plus longtemps.
Est-ce un acte systématique dans le cas des cancers tête et cou ?
Alors quasiment, oui, quasiment. Parce que les tumeurs et les cancers de la tête et du cou sont des cancers qui exposent un risque très élevé de métastases ganglionnaires. En général, on pratique une intervention sur les ganglions. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on fait le même traitement sur la tumeur et sur les ganglions. Par exemple, si la tumeur, le cancer doit être traité par des rayons de la radiothérapie, eh bien on fera aussi la radiothérapie sur les ganglions. Si on doit faire une opération au niveau de la tumeur, eh bien on fera aussi une opération au niveau des ganglions, et dans ce cas-là, on pratiquera un curage. Donc, lorsque l'on doit opérer une tumeur ORL, eh bien de manière quasi systématique, on fera un traitement des ganglions. Il n'y a que pour quelques localisations précises pour lesquelles le risque de métastase dans les ganglions est très très faible. Donc par exemple, pour les tumeurs des sinus, pour les petits cancers de la lèvre, ou pour les cancers de la corde vocale, quand ils sont vraiment localisés uniquement à la corde vocale, pour ces trois cancers-là, ça arrive que l'on ne fasse aucun traitement ganglionnaire. Mais pour tous les autres, ils sont concernés par un curage ganglionnaire si on doit opérer la tumeur.
Combien de ganglions doit-on retirer pour être efficace ?
C'est une excellente question. Souvent, c'est l'évolution finalement du patient qui nous dira si on a enlevé assez de ganglions, parce qu'évidemment, si on enlève les ganglions, on fait un curage et que finalement, il y a une rechute avec un ganglion métastatique dans le territoire qu'on a traité, c'est que manifestement, on n'a pas retiré suffisamment de ganglions. Voilà, ce sont des notions qui sont très, très relatives.
Le curage est-il toujours bilatéral ?
Non, parce que, comme je vous le précisais, le curage est principalement guidé par la notion de drainage d'une tumeur. Si vous avez une petite tumeur très latérale, donc par exemple sur l'amygdale, on ne fait pas de curage des deux côtés, on va faire un curage que du côté du cancer. Si par contre on a évidemment une très très grosse tumeur, ou si cette tumeur est située au milieu, sur la ligne médiane, par exemple sur la pointe de la langue ou bien au milieu de la gorge, et bien dans ce cas-là, on sait que le drainage peut être bilatéral et dans ce cas-là, on fera un curage bilatéral.
Qu'est-ce qu'une rupture capsulaire ?
Alors, il faut savoir qu'un ganglion est une structure qui est contenue dans une enveloppe qu'on appelle la capsule ganglionnaire. C'est une enveloppe qui a une certaine résistance, donc très relative à l'extension du cancer. Donc quand le cancer va arriver dans le ganglion, il va s'agir d'une ou deux cellules de cancer, puis elles vont proliférer, le ganglion va grossir, et à partir d'un certain stade, une certaine taille, eh bien la capsule peut se rompre et le cancer va finalement s'étendre au-delà du ganglion. Donc c'est un élément pronostique très important parce que quand il n'y a pas de rupture capsulaire, ou qu'on en est sûr en tout cas, eh bien le cancer a priori va rester contenu dans le ganglion. Alors il peut aller plus loin dans d'autres ganglions via les petits canaux lymphatiques, mais s'il y a une rupture de la capsule ganglionnaire, rupture capsulaire, eh bien le cancer va s'étendre au tissu immédiatement avoisinant. Et on sait que dans ce cas-là, le pronostic, c'est-à-dire les risques de ne pas pouvoir traiter le cancer, donc ce risque est élevé.
Est-ce que vous pouvez nous parler des cicatrices ? Où se situent-elles et quelles sont leurs tailles approximativement ?
Alors là, elles dépendent évidemment de l'extension, donc de l'extension du curage que l'on veut faire, si c'est un curage sélectif, un ganglion sentinelle, ou bien un curage très étendu, radical ou radical modifié. Ça dépend également selon qu'il est bilatéral ou unilatéral, bien sûr. Et ça dépend aussi des incisions qui sont nécessaires pour retirer la tumeur. Parce que comme on doit enlever la tumeur dans le même temps chirurgical, même temps opératoire, évidemment, les incisions vont aussi dépendre de ça. Par exemple, si le patient souffre d'un cancer de la langue qui est proche de la mâchoire inférieure, eh bien, lorsque l'on va opérer cette tumeur, on va parfois être amené à faire une incision qui va partir de la pointe du menton jusque derrière l'oreille, sous la forme d'un trait un peu circulaire, en arc, avec un petit trait vertical vers le bas, vers la clavicule. Voilà, ça c'est l'incision, la cicatrice la plus courante. Mais si l'on doit faire une intervention pour une tumeur, par exemple, du larynx, de la corde vocale très étendue, par exemple, donc par exemple comme la très connue laryngectomie totale, eh bien dans ce cas-là, on fait une cicatrice qui va de derrière une oreille jusque derrière l'autre oreille, en passant très près des clavicules et du sternum en bas du cou. Donc en fait, c'est souvent la tumeur qui va guider la taille de la cicatrice et la quantité de tissus et de ganglions que l'on doit retirer.
Est-ce que le curage ganglionnaire est pratiqué en même temps que la chirurgie d'excérès de la tumeur cancéreuse au niveau de la tête et du cou ?
Alors oui, dans la très très grande majorité des cas, oui. C'est un principe, hein. Au moment où on traite la tumeur, on traite les ganglions en même temps. Il y a quelques cas particuliers, bien sûr, c'est lorsque le patient présente une récidive d'un ganglion au niveau du cou. Par exemple, il a été traité de sa tumeur, on lui a enlevé les ganglions, mais malheureusement, il présente un an après une récidive avec un ganglion qui apparaît, une métastase ganglionnaire. Dans ce cas-là, on peut être amené à faire un nouveau curage, mais ce sont vraiment des cas un peu particuliers. Dans la majorité des cas, on fait le curage en même temps que le traitement de la tumeur.
Merci professeur Franck Gégaud d'avoir participé à ce podcast. On se retrouve pour un prochain podcast consacré cette fois aux risques immédiats et secondaires des curages ganglionnaires. À bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Corasso.org.